Bonjour et bienvenue dans Meilleur Allié, le podcast qui vous aide à explorer et améliorer la relation que vous avez avec vous-même. Je m'appelle Marie Legac et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode différent des précédents, car je vous invite à écouter ma conversation avec Émilie de Buire, qui est neuropsychologue. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle toute seule, c'est une interview. Et pour vous planter un peu le décor, j'ai contacté Émilie pour ce podcast après l'avoir rencontrée lors d'un événement sur la santé mentale où elle est intervenue et durant lequel j'ai été complètement absorbée par sa présentation sur le rôle des pensées dans notre bien-être au quotidien. J'ai vu beaucoup de liens avec le travail que je fais en coaching et j'ai eu envie d'en savoir plus sur sa vision de l'accompagnement thérapeutique et sur la relation à soi. Nous avons bien sûr des métiers bien distincts avec des formations et des approches différentes, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs sur la manière d'aborder la question de la relation à soi. Comme j'étais très intriguée par son métier de neuropsychologue, j'ai d'abord pris le temps de l'interroger sur son parcours et son métier avant de plonger plus précisément dans le sujet de la relation à soi. On a aussi parlé des biais d'interprétation qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements, de comment prendre de la distance avec eux et des étapes pour passer des pensées qui nous font souffrir à des pensées plus utiles. J'ai beaucoup aimé le sens de la pédagogie d'Émilie, son humilité, son ouverture d'esprit et son côté très pratico-pratique qui va sûrement vous donner envie d'aller piocher dans ses conseils. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans ma conversation avec Émilie de Buire et nous, on se retrouve à la fin. Eh bien, c'est parti. Alors, Émilie, bienvenue sur le podcast Meilleur Allié. Je suis ravie de t'accueillir. Tu es la première personne que j'interview.
Et je...
plaisir partagé parce que je sais que c'est la première fois que toi aussi tu fais un podcast.
Exactement.
Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse avoir ce moment d'échange aujourd'hui. On s'est rencontrés en octobre lors d'un événement que j'avais organisé sur la santé mentale où tu intervenais et c'était vraiment passionnant. Donc, je t'avais proposé de rejoindre un épisode pour que je puisse te poser plein de questions. Donc, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu m'accueilles dans ton bureau, clinique des Portes de l'Heure à Vernon. Et donc, on va passer un peu de temps ensemble pour que tu nous parles de ton métier, de ton parcours, de ton travail et de tout ce qui pourrait aider nos auditeurs, auditrices à avoir une meilleure relation avec eux-mêmes.
Ça marche.
Ça te va ?
Tout me va.
Ok, c'est parfait. Écoute, je te propose de commencer par te présenter. On rentrera dans le détail de ton métier juste après, mais est-ce qu'il y a des choses que tu penses importantes que l'on sache à ton sujet ?
Qu'est-ce qui serait important ? Je pense qu'être quelqu'un d'être assez gentil, assez à l'écoute, et je pense que c'est des qualités peut-être importantes en lien avec mon métier, et qui sont aussi importantes dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas une double face, c'est pas que la façade psychologue, c'est aussi un trait de caractère qui fait partie intégrante de ma personne.
Ok, c'est intéressant que tu te présentes de cette manière. Ouais. C'est assez rare qu'on commence par présenter des traits de sa personnalité.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Donc, ok, super. D'un point de vue plus professionnel, peux-tu nous parler de ton métier et de comment tu en es arrivée là ?
Oui, sans problème. Moi je suis, donc pour donner un peu, les psychologues, on peut avoir plusieurs spécialités. Donc moi je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et on a tendance à abréger avec neuropsychologue, même si c'est pas un titre en soi. Donc j'ai été diplômée en 2012 et en fait je me suis orientée au démarrage plutôt sur... les personnes âgées, donc j'ai travaillé dans un centre de gérontologie où j'ai fait ce qu'on appelle de la consultation mémoire, donc j'ai fait de l'aide au diagnostic avec des tests neuropsy où on fait justement, on aide au diagnostic des pathologies, notamment un petit peu dégénératives, type maladie d'Alzheimer, et il y en a d'autres mais qu'on connaît un petit peu moins finalement. J'ai fait aussi ce qu'on appelle des ateliers cognitifs ou des ateliers mémoire, donc le but c'était d'entretenir justement les capacités des personnes pour qu'elles puissent garder leur capacité le plus longtemps possible dans le temps. Et puis, la casquette un peu clinique qu'on connaît bien, en tout cas qu'on a tous un peu en tête, de pouvoir faire des entretiens cliniques, soit avec les patients, soit aussi avec les familles pour les soutenir quand ils ont un parent qui rentre en EHPAD ou qui a une pathologie dégénérative. Et finalement, donc, je suis arrivée à la clinique il y a à peu près un an et demi, parce que j'ai décidé de me réorienter, aussi j'avais besoin d'un petit peu de renouveler mes connaissances, de m'ouvrir d'autres portes. Je suis à la clinique des Portes de l'Heure. où je me suis orientée sur la psychiatrie, qui est un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup, où là je suis en pleine train de reconstruire finalement mes connaissances, en train d'enrichir un petit peu, et ça continue surtout. Enfin, là ça fait un an et demi, je suis loin d'avoir tout vu.
Quand on rembobine un petit peu Émilie étudiante, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie de la psychologie ?
Alors, initialement, je ne voulais pas du tout être psychologue, je voulais être professeur des écoles. Donc en fait, au moment de la terminale où il fallait choisir un petit peu, je devais faire une licence pour pouvoir aller à l'IUFM à la base. Et les licences, maths, histoire, géo, c'était pas du tout ma passion. Par contre, j'adorais la philosophie. Et donc aussi beaucoup plus la partie psycho, et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire une licence de psychologie. Et puis finalement la licence se passe et je découvre la neuropsychologie et le côté un peu plus cadré, parce que moi je viens d'un parcours S, donc on aime bien un petit peu que ça soit un petit peu carré dans les normes, et la neuropsychologie ça me permettait ça, c'est-à-dire que je faisais passer des tests et j'avais des outils sur lesquels je pouvais m'appuyer, valider scientifiquement, donc ça correspondait bien à mon parcours, et je me suis dit bah finalement j'y suis bien, autant rester dans le parcours, et donc finalement je me suis lancée sur le master.
Ok, ouais, donc il y a vraiment cette notion à la fois psychologique et scientifique que tu retrouves en fait dans le métier qui t'a attirée. Ok. Et donc aujourd'hui, dans ton activité en clinique, quels sont les sujets ou le type de patients que tu accompagnes ? Est-ce que tu as un sujet spécifique ou un type de patient particulier ?
Alors il y a, je vais parler plutôt des deux casquettes que j'ai, donc plutôt clinique, parce que ici finalement j'ai plutôt un rôle quand même de clinicienne plus que de neuropsychologue, où effectivement on va rencontrer plutôt des patients qui ont vécu des violences dans leur vie, et où ça se traduit aussi par des symptômes, ce qui est souvent méconnu du public, et il y a toute une démarche thérapeutique à enclencher. L'hospitalisation, ça peut être quelque chose d'intéressant pour aussi faire le point pour les patients, mais surtout il y a un cheminement après pour le patient à avoir sur une thérapie à plus long terme. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui sont encore, je trouve, assez tabous finalement dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment pour la partie clinicienne où c'est une appétence que je développe au fur et à mesure. Je suis loin d'être parfaite dans ce domaine-là, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Et de l'autre côté, sur tout ce qui va être plutôt de neuropsy, ou le côté un peu chercher des diagnostics, où je vais avoir une appétence plutôt sur ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, type ce qu'on appelle le TDAH, donc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et éventuellement aussi tout ce qui est TSA, ce qui est un trouble du spectre autistique. Parce qu'en fait, il y a l'idée d'un patient qui présente un autisme, mais il y a aussi tout le spectre qui va à côté et qui est quand même très méconnu encore au jour d'aujourd'hui, et qui peut expliquer aussi beaucoup de difficultés que peuvent rencontrer certains patients dans la vie quotidienne.
Et en quoi ta casquette de neuropsychologue, enfin en tout cas la spécialité que tu as développée, vient t'aider ou t'apporte en tout cas un outillage supplémentaire dans ton métier de psychologue ?
Dans les techniques entre guillemets utilisées en neuropsychologie, on va justement dans cette idée d'aller chercher de l'information éventuellement dans le fonctionnement des personnes, justement pour aider au diagnostic et orienter dans le bon cheminement pour les patients. Là, comme je te disais, par exemple, sur des patients qui présentent un TSA ou un TDAH, c'est important éventuellement des fois d'avoir cette étiquette, même si elle n'est pas absolument pour tout le monde. C'est pas une idée, il ne faut pas un diagnostic pour tout le monde, c'est pas la réalité. Mais pour certains patients, ça va être important déjà de poser un diagnostic pour pouvoir cheminer dans ce sens et mieux comprendre ce qui a pu se passer dans la vie de tous les jours, pourquoi ils ont fonctionné comme ça. Et c'est aussi très déculpabilisant aussi de porter un diagnostic. Donc ça, c'est vraiment la casquette plutôt neuropsy. Qui va rentrer en ligne de compte, en tout cas pour moi, même si je pense que certains cliniciens le font très très bien. Donc ça rentre vraiment en ligne de compte dans ce moment-là.
Qu'est-ce que tu veux dire par déculpabilisant ?
Souvent, ce qui peut arriver pour les patients qui présentent finalement, qui ont une pathologie qui a été méconnue pendant très longtemps, il y a cette idée qu'ils sont responsables éventuellement des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Et souvent aussi, qui peut être véhiculé par l'entourage, même si ce n'est pas forcément de manière consciente, mais qui va être véhiculé par des phrases qu'on peut dire dans le quotidien, tu le fais exprès, t'abuses, je te l'ai déjà dit, quand on a des problèmes d'attention, en fait, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et donc déjà, ça, on peut décharger finalement avec l'aide d'un diagnostic.
Oui, donc la personne va en fait trouver une explication qui n'est pas juste c'est un problème de personnalité ou de bonne volonté.
C'est ça.
Il y a une explication dans le fonctionnement en fait.
Dans le fonctionnement de la personne, ce qui veut dire aussi que ça se traduit aussi sur le plan cérébral. Encore une fois, c'est pas juste dans mon trait de caractère. C'est vraiment que je ne peux pas faire les choses et donc c'est quand même bien bien différent de ne pas le vouloir et de ne pas pouvoir.
Et est-ce qu'il y a un travail du coup sur l'acceptation du patient de, alors, je sais pas comment on pourrait dire, de sa condition est-ce que toi tu travailles sur ça?
Oui, bien sûr, tout dépend du patient et des problématiques rencontrées, mais effectivement un diagnostic ça peut aussi amener à de l'acceptation. Si on revient sur des pathologies qui sont peut-être plus connues, mais tout ce qui va être bipolarité, les troubles de la personnalité type borderline, y a une acceptation aussi qui est importante aussi à faire, justement pour accepter ce fonctionnement-là et faire en sorte que ça puisse coïncider avec la vie de tous les jours. Parce que tant qu'on est dans la confrontation avec son fonctionnement, qu'on va un peu à l'opposé, qu'on est toujours renvoyé à ça, ça peut être très difficile et puis on subit pas mal d'échecs finalement, ou de difficultés en tout cas, dans la vie de tous les jours. Donc ce travail d'acceptation, il a du sens.
Et je me souviens que tu m'avais parlé aussi de tes pratiques dans la TCC. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Alors, quand même remettre les choses dans le contexte, je ne suis pas diplômée, donc ça veut dire que je reste orientée dessus, mais que j'ai quand même pas ce diplôme-là. Par contre, ce que je trouve intéressant dans les TCC, c'est qu'en fait, on va fournir des exercices à nos patients qui leur permettent et de cheminer pendant l'entretien autour des exercices proposés, mais aussi de se les approprier pour essayer de les tester dans la vie quotidienne. Et de voir justement, par le biais des exercices, peut-être de cheminer sur quelques petits changements qui vont pouvoir être réalisés au fur et à mesure du temps. Et puis surtout, à la fin, ça permet au patient d'être autonome finalement dans sa thérapie, de mettre des choses en pratique. Ça veut dire que les exercices que je propose, ça ne veut pas dire que c'est les bons. Certains patients qui arrivent complètement à se réapproprier des exercices et se dire « bah non, en fait, moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait plutôt comme ça, mais en fait, ça a fonctionné. » Bah très bien, c'est parfait. C'est que vous arrivez à mettre en application, à vous réapproprier les outils qu'on vous propose. Et donc, ça veut dire que derrière, ils sont très autonomes, finalement, de plus en plus autonomes pour pouvoir les insérer dans leur vie quotidienne. Et donc, ils ont beaucoup moins besoin de moi. Et c'est l'idée. C'est qu'un thérapeute, c'est un support pendant un temps, mais l'idée, c'est pas que les patients deviennent dépendants, finalement, de nous.
Alors, tu peux juste nous rappeler ce que ça veut dire, TCC?
Donc, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est un type de thérapie.
Oui. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ça aide la personne, une fois qu'elle a compris de quoi elle souffre ou quel est son dysfonctionnement, de pouvoir ensuite s'approprier peut-être de nouvelles manières de faire pour pouvoir ensuite, dans son quotidien, mieux vivre les choses, c'est ça?
C'est ça. En fait, dans un fonctionnement, et même peu importe... Il y a effectivement la pathologie, mais il y a aussi ce qu'on est, notre caractère, qui vont rentrer en lien avec la pathologie, notre environnement, les gens qui font partie de cet environnement. Tout ça, c'est un tout qu'il ne faut pas négliger. Et l'idée, c'est de se questionner sur, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui, dans mon fonctionnement, qu'est-ce qui me permet d'aller bien, mais aussi peut-être ce qui me permet d'aller moins bien. Et dans ce fonctionnement qui me permet d'aller moins bien, est-ce que je peux envisager de faire quelques changements? Donc déjà, il faut aussi travailler ce qu'on appelle la motivation, se motiver finalement à entreprendre des changements, et puis que ces changements, ils sont aussi à petite échelle, c'est-à-dire qu'on ne change pas radicalement du jour au lendemain, mais que c'est des petits changements qui, par contre, pourraient contribuer à un mieux-être au fur et à mesure du temps.
Donc finalement, le diagnostic avec ta casquette de neuropsychologue, c'est le point de départ de tout un mode de réappropriation de la personne, et là, tu vas incorporer différents outils pour... que la personne puisse devenir autonome.
C'est ça.
Et appréhender en fait sa réalité avec des nouveaux outils.
C'est ça. C'est ça. Exactement.
C'est super intéressant. Je suis ravie de pouvoir échanger sur tout ça avec toi. Comme je te disais, le podcast Meilleur Allié, on s'intéresse vraiment à la relation à soi. Et je me demandais si c'est un sujet qui est récurrent, ponctuel avec tes patients. Est-ce que vous êtes amenée à parler de ce sujet-là avec tes patients?
Oui, énormément, parce que finalement, c'est ce qui est beaucoup mis de côté chez tout un chacun, finalement. C'est-à-dire que prendre soin de soi, faire des activités de plaisir, être bienveillant envers soi, toutes ces notions-là qui sont en lien avec comment on se vit chaque jour, et pas assez souvent bien mis de côté, ou alors plutôt dans le sens inverse. Il y a beaucoup de dévalorisation de la part des patients, beaucoup de sentiments d'échec qui vont venir justement un petit peu engranger des cercles vicieux dans la tête des patients, et puis qui vont engendrer ce mal-être qui perdure après dans le temps.
Ok, et ça me fait penser justement à l'atelier que tu avais présenté où on s'était rencontrés sur le rôle des pensées. Et ce qui m'avait marqué, c'est que tu avais présenté différentes formes de pensées et comment ces pensées pouvaient ensuite créer en fait une certaine forme de mal-être chez chacun selon les pensées qu'on nourrit. Est-ce que tu pourrais nous représenter brièvement quels sont les différents types de pensées que tu as identifiées et sur lesquelles tu travailles ?
Alors, donc quand on a fait cet atelier, on a parlé de ce qu'on appelle les biais d'interprétation. Donc, de toute façon, si on tape sur Internet biais d'interprétation, on pourra tomber dessus. Ça a différents noms. L'idée que j'avais présentée dans l'atelier, c'était d'en présenter quelques-uns, en tout cas les plus connus. Donc, par exemple, on a vu, il y avait la culpabilité. Donc, c'est toujours ma faute si tatatitatata. Le c'est de ma faute, il est représentatif d'une pensée qui traduit la culpabilité. Et quand ce mécanisme il est beaucoup, beaucoup présent, ça engendre généralement plus d'efforts, par exemple, de la part des patients pour éviter d'avoir cette pensée-là. Mais donc, ça veut dire que c'est très énergivore. Et donc, si jamais on passe beaucoup de temps à éviter d'avoir un « c'est ma faute », ça veut dire qu'on ne passe pas beaucoup de temps, par exemple, à s'occuper de soi.
Mmh,
oui, ça, c'est un type vraiment de biais qui, justement, va aller plutôt à l'opposé de la relation avec soi. Donc ça, c'est un type de biais. Ce qu'on peut retrouver aussi dans les biais qu'on avait vus, pour en citer deux ou trois, c'était le fait de ne retenir que les détails négatifs. Aujourd'hui, j'ai vraiment passé une très mauvaise journée. En fait, je retiens que ce qui s'est mal passé dans ma journée. Par exemple, juste en fait, mon pneu a crevé, donc c'était une très très mauvaise journée. Je reste axée là-dessus, mais je vois plus du tout ce qui s'est bien passé à côté. Ça, c'est un biais d'interprétation, parce que dans la réalité, si je regarde peut-être d'un peu plus près, peut-être mon petit déjeuner s'est très bien passé, et puis j'ai eu une collègue en fait entre-temps au téléphone, et on a papoté 10 minutes, et c'était sympa. Finalement, mon pneu a crevé, et c'est vrai que derrière, j'ai beaucoup ruminé, et là, ça s'est moins bien déroulé. Par exemple, ce type de biais, on le retrouve beaucoup chez les personnes qui vont plutôt être anxieuses ou dépressives. C'est un biais qui va se développer d'autant plus, donc il va être très très présent dans la vie de tous les jours. Et donc forcément, si je vois toujours ce qui s'est mal passé dans ma journée, et ça impacte mon moral derrière. Voilà un peu le type de biais qu'on peut un petit peu voir, en tout cas qui est présent facilement dans la vie de tous les jours.
Et est-ce que là, il y a un lien entre le cerveau, l'anxiété, ce type de pensée, et du coup, quel est-il si y en a un ?
Généralement, les patients anxieux, justement, ont plein de pensées, plein de biais d'interprétation qui sont présents, et justement, ces biais d'interprétation, ils vont venir amplifier l'anxiété. Et donc, c'est un cercle vicieux qui s'installe inlassablement. Donc oui, bien sûr qu'il y a un lien. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi ces biais d'interprétation, ils sont aussi liés à notre environnement. Donc ça veut dire que c'est des biais d'interprétation qui peuvent être moins présents à un moment donné de notre vie parce que c'était plus lié, par exemple, au milieu professionnel ou au milieu familial. Mais il y en a aussi qui sont très très ancrés parce qu'on les a appris dans notre éducation, dans notre petite enfance. Et donc ceux-là, on a plus de mal à s'en défaire parce qu'ils sont très très bien appris et qu'en plus on a tout notre fonctionnement à tourner autour justement de ces biais d'interprétation.
Et comme un conditionnement finalement.
Exactement.
Où c'est devenu une habitude et qu'on met plus en question.
Totalement, totalement. Et de toute façon, c'est ce qui, justement, ces pensées, elles nous font souffrir justement parce qu'on fusionne totalement avec l'idée qui va avec. Si j'ai vraiment passé une mauvaise journée et que j'y crois à 100%, ça me fait énormément souffrir. Si par contre, je me dis que j'ai passé une mauvaise journée, j'ai pas changé ma pensée, mais par contre, je suis capable de, entre guillemets, regarder cette pensée et de la critiquer, de me dire, finalement, si je regarde de plus près, il y a des choses qui se sont bien passées, et je défusionne un peu avec ma pensée, et donc finalement, j'en souffre quand même beaucoup moins.
Ça me fait penser à un des épisodes de podcast que j'avais fait autour de la manière dont les pensées peuvent du coup créer des émotions et du coup des résultats. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment toi tu fais avec tes patients pour travailler sur les pensées ? Par exemple, tu identifies qu'il y a un biais de négativité qui est très présent. Comment tu vas accompagner le patient ou lui donner des outils, je ne sais pas, pour qu'il puisse évoluer peut-être vers moins de négativité ou un autre biais, je ne sais pas, de positivité. Je ne sais pas s'il existe celui-là.
Oui, bien sûr. Oui. J'ai envie de dire, là, on parle finalement des pensées qui nous font souffrir, mais heureusement, on a aussi des pensées qui nous permettent justement d'aller bien. Ce qui va être la première intention, en tout cas moi, que je travaille avec mes patients, c'est déjà de pouvoir observer ça. C'est-à-dire que souvent, les patients qui arrivent n'ont pas connaissance de ça. Donc déjà, c'est de leur apporter finalement cette psychoéducation autour de la pensée et après de les amener à s'observer. Parce que surtout, ce qui est important, c'est « Ok, j'ai ça, mais si jamais je le vois pas dans ma vie de tous les jours, ça va être compliqué de travailler dessus. » Donc déjà, s'observer, c'est un très très grand pas dans le travail pour cheminer finalement. une fois que les patients commencent à identifier un petit peu, ah bah oui, en fait, je me suis rendu compte hier, bah, dès qu'il s'est passé ça, tout de suite, par exemple, un des biais, c'est le catastrophisme. En fait, j'ai pensé à une pensée catastrophique complètement derrière, j'étais vraiment pas bien, je me suis renfermée sur moi. Et déjà là, on peut travailler là-dessus. Ok, finalement, si on essaye de trouver des pensées alternatives, soit on va essayer d'orienter sur les pensées alternatives, c'est comment je peux critiquer finalement cette pensée. Est-ce que j'ai des preuves qui vont dans le sens de cette pensée, de pouvoir me mettre à distance de cette pensée. Soit éventuellement aussi travailler au niveau du comportement. C'est-à-dire que j'ai une pensée qui va me donner des émotions, qui va générer un comportement. Ce comportement peut être aussi, entre guillemets, néfaste, en tout cas pour moi, il m'apporte un mal-être. Par exemple, si je me replie sur moi et en fait c'est contre-productif parce que ça me fait encore plus ruminer, qu'est-ce que je pourrais finalement changer dans mon comportement ? Donc soit je peux vraiment partir vraiment, c'est pour ça qu'on parle de technique cognitivo-comportementale, c'est qu'on peut travailler et sur les pensées, mais aussi sur le comportement, parce que tout s'influe l'un l'autre.
Donc tu vas les aider à quoi ? Développer d'autres pensées d'ailleurs, est-ce que tu vas plutôt développer d'abord d'autres pensées et après d'autres comportements, ou est-ce que ça dépend du patient ?
Ça dépend du patient. Ouais. Ça va vraiment dépendre du patient, du cheminement. C'est vraiment, en fait, c'est quelque chose de très personnalisé. Par contre, pour le patient qui va vouloir cheminer tout seul, par exemple, quand on a fait cet atelier, le but, c'est de permettre au patient, finalement, de s'approprier de certaines connaissances et de pouvoir essayer de tester. Il faut tester, en fait. Il faut essayer, il faut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, moi, ce que je dis à mes patients, c'est moi, je suis là pour éventuellement proposer des outils. Mais la personne la mieux placée pour savoir les choses, c'est le patient. C'est lui qui sait si ça va fonctionner ou pas. Par contre, il faut essayer. Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Donc le but, c'est de tester, de voir. Et par contre, on peut en discuter derrière. J'ai essayé ça 2-3 fois. Ça a bien marché. Ça marchait 1 fois sur 2. Bah, c'était quoi le contexte ? Quand ça a fonctionné, quand ça n'a pas fonctionné. Et on décortique finalement un petit peu chaque situation pour mieux comprendre ce qui s'est passé derrière et identifier ce qui permet que ça fonctionne, et aussi peut-être ce qui empêche que ça fonctionne.
Et tu disais que le point de départ, c'est déjà la prise de conscience quand on observe ses pensées, de voir qu'on les a.
Oui.
Comment on peut prendre conscience de ses pensées et s'observer ?
Prendre déjà du temps dans sa journée pour, entre guillemets, s'écouter. Parce que finalement, on est quand même noyé dans notre vie de tous les jours, et on fait ci, et on fait ça, et en fait, nos pensées, elles sont toujours là. Mais si on n'y prête pas attention, elles influent quand même. C'est-à-dire, si en plus j'y crois, etc., et que j'y fais plus attention, j'ai des émotions. Justement, j'ai plein de patients qui me disent « Mais en fait, je me sens pas bien aujourd'hui, mais j'ai pas d'explication. » Donc, il n'y a pas forcément l'accès aux pensées. Mais par contre, il y a le mal-être qui va se ressentir derrière. Donc, c'est déjà réapprendre à s'observer, à faire attention à soi. Déjà, on commence comme ça déjà à travailler la relation à soi. Et pour ça, ça peut être intéressant rien que de prendre 5 minutes dans la journée sans personne, peut-être à écrire, ça peut être un bon moyen d'écrire justement les pensées qui nous traversent l'esprit. Et là, justement, ça veut dire qu'à chaud, on va marquer telles quelles nos pensées et qu'on pourra reprendre ça finalement quand on sera à un autre moment de notre journée ou quelques jours plus tard, la tête un peu plus reposée.
Et on vide son cerveau sur le papier.
C'est ça, c'est un bon moyen. Enfin, l'écriture, c'est quelque chose de très thérapeutique.
Ouais, je suis plus la première convaincue. Ouais, et donc cette manière de s'observer, du coup, j'imagine que tu as des patients qui n'ont jamais eu ni le réflexe ni l'habitude de le faire.
Oui.
Quand ils commencent à prendre conscience de leurs pensées, alors moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec un coaché qui me disait « Ah là là, mais en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais autant de pensées. » Et du coup, ça a été un vrai révélateur de « Ah, mais en fait, c'est pas ce que je pense ça qui se passe ça. » Et tu parlais tout à l'heure de ton accompagnement pour faire de la pédagogie, en fait, par rapport à ça. C'est quoi les étapes suivantes, en fait, quand tu as aidé quelqu'un à prendre conscience de ses pensées? Comment tu aides la personne à ce que ses pensées, la prise de conscience de ses pensées, elle l'utilise d'une bonne manière et ce ne soit pas justement une manière encore plus de se culpabiliser ou de se flageller. Parce qu'on pourrait se dire « Ah, mais pourquoi je pense comme ça ? C'est de ma faute si je pense ça, etc. »
Bien sûr, une pensée négative peut en entraîner une autre et puis après, c'est un peu une petite histoire qui commence à se créer dans notre tête. Et c'est ce qu'on appelle après les ruminations, c'est-à-dire qu'on part d'un, entre guillemets, comme si on avait un petit poids et puis finalement, c'est devenu un melon, une pastèque, etc. Donc ça grossit au fur et à mesure du temps. Effectivement, il y a le fait de s'observer, mais il y a justement cette réflexion après derrière de qu'est-ce qui me fait vraiment souffrir, parce qu'on va pas travailler sur toutes les pensées. Si je remets en question chacune de mes pensées, j'ai pas fini. Mais c'est plutôt d'identifier 1-2 pensées vraiment qui reviennent de manière assez récurrente et qui me fait vraiment souffrir dans mon quotidien, et vraiment travailler là-dessus. Et progressivement, en fait, on va finalement donner de nouvelles habitudes à notre corps, à notre façon de faire les choses, et qui va nous orienter finalement à nous mettre un petit peu à distance de nos pensées. Ça, et aussi le fait de travailler l'estime de soi. Si j'ai une meilleure estime de soi, je vais pouvoir plus facilement finalement me mettre à distance de mes pensées négatives, en tout cas de celles qui vont plutôt m'amener à aller moins en direction de ce qui est important pour moi.
Et alors du coup, tu parles de l'estime de soi et c'est parfait parce que j'avais une question là-dessus. Du coup, quand toi tu fais le lien entre pensée, estime de soi, qu'est-ce que tu peux faire avec le patient pour l'aider à développer des pensées alternatives plus douces ou plus bienveillantes avec lui-même?
Déjà, ça va être de reprendre sur les faits. Enfin, finalement, dans une situation qui amène des pensées négatives, c'est finalement de reprendre les faits. Parce que les faits, il n'y a pas de connotation, finalement. Si je peux essayer de donner un exemple, je fais tomber ma tasse à café. Oh là là, je suis vraiment conne, je suis vraiment maladroite, c'est pas possible. Je le fais tout le temps, c'est n'importe quoi. Dans les faits, j'ai fait tomber ma tasse. Et donc là, on va pouvoir développer. Est-ce que ça veut dire que si je fais tomber ma tasse, est-ce que je suis forcément quelqu'un qui est nul derrière, qui n'y arrive jamais? Combien de fois j'ai pris une tasse dans mes mains et où elle ne s'est rien passé? Donc finalement, on va revenir à quelque chose peut-être d'un peu plus objectif, justement pour un petit peu relativiser sur la situation. Parce que dans mon biais d'interprétation, je vais retenir que la fois précédente, qui s'est peut-être passée il y a 3 ans en arrière où j'ai fait tomber ma tasse, où elle s'est cassée, mais je vais oublier que dans les 3 ans, dans l'intervalle des 3 ans, j'ai dû prendre ma tasse tous les jours, voire 1, 2, 3 fois par jour, et qu'il ne s'est rien passé. Donc justement, ça va être un petit peu de relativiser dessus. Donc ça va être un premier travail, finalement, d'objectiver les choses, et c'est comme ça que je vais pouvoir développer des pensées alternatives.
Il y a vraiment cette idée d'aller affaiblir, en fait, une pensée qu'on a, donc tu disais, avec laquelle peut-être on fusionne, et d'aller presque la décrédibiliser en
c'est
disant « bah non, c'est pas tout le temps vrai, c'est pas
ça.
Tout le temps le cas ».
C'est ça.
Et c'est ça en fait qui va permettre de donner la place à une pensée peut-être
différente.
Pas opposée, mais en tout cas différente et plus nuancée en fait.
Plus nuancée et surtout on va aller voir si jamais cette pensée-là, comment elle me permet de vivre les choses. Finalement en fait quand je suis tout le temps en train de me dire que je suis nulle, en fait je suis tout le temps triste. Et puis finalement quand je vois les choses différemment, quand je commence à avoir un autre angle de vue, en fait je me sens un peu mieux. Finalement, j'entreprends un peu plus de choses, peut-être que c'est peut-être plus intéressant que j'ai cet angle de vue parce qu'il est plus bénéfique finalement dans la vie de tous les jours que quand je me dis que je suis nulle tous les jours. Parce que des fois, il y a des idées qu'on a aussi. Si je me dis que je suis nulle, je vais essayer d'être plus performant parce que ça me permet d'être plus performant derrière. Après, objectif, encore une fois, on revient sur objectivement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça me permet vraiment d'aller plus loin, de développer plus de compétences? En fait, non, j'y arrive pas, ça me met à mal, j'ai peur de l'échec, etc. Dans ces cas-là, ce fonctionnement-là, il a peut-être plus de sens aujourd'hui qu'il en a eu à un moment donné, il a peut-être eu son utilité, mais actuellement c'est plus le cas, donc ça peut être intéressant de développer d'autres stratégies.
Et qu'est-ce que tu penses en fait du travail de pensée qu'on entend parfois qui est, alors je sais pas si c'est de la psychologie positive, mais en tout cas parfois ça relève un peu de la méthode Coué, d'aller essayer de se convaincre de certaines pensées, je sais pas, par exemple, je suis quelqu'un de génial, et de se le répéter chaque matin, un peu comme dans le Miracle Morning. Est-ce que, pour toi, c'est une manière aussi de développer des pensées alternatives, ou est-ce que là, on est parti dans un extrême peut-être trop poussé, un peu dévoyé?
Je te dirais ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut tester. Je pense que pour certains patients, ça peut complètement fonctionner. J'ai déjà eu des retours de patients pour qui ça a été vraiment très bénéfique, qui naturellement m'ont dit « Maman, j'avais testé ça, et franchement, je m'étais sentie beaucoup mieux derrière. » Pas de souci. Et d'autres où en fait ça les met plutôt en échec à leur dire en fait j'y crois pas à ce que je suis en train de me raconter, j'arrive pas à y croire et donc ça me fait culpabiliser d'autant plus. Encore une fois, faut tester toutes les solutions et voir ce qui correspond à chacun. C'est pas quelque chose que je vais aller proposer à mes patients, c'est d'ailleurs pour ça que tout psychologue n'est pas bon pour tout le monde, c'est que on a nos appétences et qu'on va correspondre à certaines personnes, mais pour autant je pense que tout est bon à prendre.
Oui, c'est vraiment intéressant cette approche de dire il faut tester et voir en fait. Il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde.
Il n'y aurait pas autant de thérapies si jamais il n'y en avait qu'une qui fonctionnait pour tout le monde.
C'est vrai, c'est plutôt du bon sens. Par rapport à la relation à soi, toi tu dirais que c'est quoi les ingrédients d'une bonne relation à soi?
Les trois angles que j'avais évoqués dans l'atelier, je pense que c'est les trois angles, en tout cas, que moi, je privilégie, c'est-à-dire être bienveillant envers soi. Si je reprends l'exemple de la tasse et de me traiter tous les noms, c'est peut-être pas ce qui va me permettre d'aller bien. Et par contre, à contrario, on le fait beaucoup, c'est quand on fait bien les choses. Par exemple, j'ai préparé un plat et il était bon, Et puis, et bah, je suis contente. En fait, j'ai le droit de me dire que je suis contente d'avoir réussi mon plat, etc. Et ça, on ne le fait pas. Il y a un peu ce principe humain de se dire, je dois me critiquer quand j'ai mal fait les choses. Et par contre, quand je fais bien les choses, bah, je ne me le dis pas. Donc, l'idée, c'est peut-être un petit peu de faire plus attention. Ça ne veut pas dire de se le faire à chaque fois. Mais de temps en temps, quand j'ai fait attention, que j'ai bien fait quelque chose, bah, tu sais, bah, je suis contente. Là, je me suis acheté un vêtement, je trouve qu'il me va bien. Bah, je peux me le dire, il me va bien. Donc ça peut rejoindre par exemple cette idée de j'ai une phrase un peu toute faite et je me la dis, mais là c'est vrai, enfin moi l'idée c'est quand je le pense vraiment de pouvoir me le dire. C'est un peu double justement de un peu comme un clou que j'enfonce un peu plus, voilà, je suis contente de l'avoir acheté puis je peux me le dire et je vais un petit peu intensifier les choses finalement. Ça c'est la première chose, donc de faire attention en tout cas d'être un peu assez vigilant pour être bienveillant envers soi. On sait très bien le faire envers les autres généralement, mais envers soi on fait beaucoup moins bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être vraiment de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut dire faire des choses uniquement pour soi. Et, donc, et ça, c'est pas si évident que ça, parce que j'ai plein de patients qui vont me dire « Mais je le fais !» J'ai fait un pull pour Micheline, et puis j'ai aidé Jacques à faire ça. Alors oui, j'entends que ça peut procurer du plaisir d'aider les autres, ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment pour soi ? Et donc, c'est de se re-questionner sur bah, peut-être des activités que j'ai délaissées ou des choses que je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant que je le fasse, mais je ne me suis jamais fait. Et justement, développer éventuellement des activités qui peuvent me permettre de me sentir bien. Si c'est de me faire couler un bain et pendant 30 minutes d'être dans un bain, et passer un bain. Si c'est jouer de la guitare, et bah, c'est jouer de la guitare. Mais en tout cas, de faire quelque chose qui nous permette vraiment de nous ressourcer. C'est vraiment d'avoir cette sensation de se ressourcer. Et il y a souvent l'idée des patients de dire « Oui, mais en même temps, si jamais je prends du temps pour moi, je le fais pas pour les autres. » Bah si. C'est un peu... j'avais vu une image sur internet que je trouvais assez intéressante de... alors c'était dans le cas d'une maman qui s'arrosait et que finalement ça se déversait sur ses enfants. Parce qu'en même temps, bah, si on prend soin de soi, d'une, ça veut dire qu'on l'apprend éventuellement, si on est maman, bah, on l'apprend à ses enfants. Et puis ça veut dire qu'on est beaucoup plus réceptif pour les autres. On est mieux, on est capable d'entendre, on peut être beaucoup plus disposé. Alors que si on est complètement en surcharge, on est quand même moins disponible finalement. Donc ça peut être très intéressant finalement de prendre soin de soi.
Je trouve qu'il y a à la fois le fait que parfois c'est perçu comme de l'égoïsme.
Oui.
Et de l'autre côté, le fait que c'est finalement la dernière des priorités et que dans nos emplois du temps surchargés, en fait, c'est ce qu'on va mettre de côté le plus facilement.
Oui, et mais en même temps, dans nos emplois du temps surchargés, justement, il y a cette idée aussi, par exemple dans les biais d'interprétation, de se créer aussi des obligations qui n'existent pas. C'est-à-dire bah, dans ma journée, si jamais j'ai prévu une longue liste de tâches, si jamais je me regarde un petit peu en arrière, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais différer? J'ai décidé absolument de laver ma voiture aujourd'hui, si elle est encore deux jours sale, est-ce que c'est dramatique en soi? Et dans ces cas-là, bah, si je ne lave pas ma voiture aujourd'hui, peut-être que je peux m'octroyer justement du temps pour moi. Donc il y a cette idée aussi de peut-être de faire un petit peu justement la balance. Est-ce qu'il y a des choses que je peux remettre de côté justement pour être bien? Et donc je suis pas irritable à la fin de journée, je suis pas fatiguée et donc plus disposée pour les autres. Et donc le troisième point finalement, c'est aussi d'aller dans le sens de ses valeurs, c'est-à-dire de se questionner qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie et justement de développer cette valeur. Une valeur, c'est quelque chose vers lequel on va tendre mais qu'on n'atteint jamais. C'est comme une histoire de boussole, de nord, de sud. On va en direction du nord mais pour autant on ne l'atteint jamais. Les valeurs, c'est le même principe, ça veut dire qu'on va toujours aller dans ce sens-là. Mais on va pas forcément atteindre la valeur souhaitée derrière. Par contre, on va se fixer des objectifs et ça veut dire qu'on peut changer aussi ses objectifs derrière. Si par exemple une valeur importante pour moi c'est la liberté, dans un de mes objectifs je vais pouvoir me dire bah tiens, je vais passer mon permis de conduire, comme ça je pourrai avoir une voiture et puis voyager. Je manque de chance, je passe mon permis de conduire, j'ai pas mon permis de conduire. C'est pas pour autant que ma valeur liberté elle est mise à mal. Je vais finalement pouvoir réfléchir sur comment mettre en pratique ça pour continuer à aller dans ce sens-là. Et donc ça permet, entre guillemets, quand on arrive à se dire que les objectifs peuvent être déplacés, d'être moins déçu par ceux qui ne se réalisent pas.
Oui, parce qu'on se raccroche finalement à la valeur et pas au moyen de l'atteindre, qui finalement peut être remplacé par un autre moyen.
C'est ça.
Tant que la valeur est là. Ouais, ok. Ok, donc dans les trois axes, finalement, je trouve qu'il y a quand même une vraie notion de d'abord se connaître. Enfin, connaître ses valeurs, s'observer, donc voir les pensées qu'on a, et aussi savoir ce qui nous fait du bien, parce que pour prendre soin de soi, enfin, on n'a pas tous les mêmes manières de prendre soin de soi. Et donc finalement, il y a à la fois se connaître, s'octroyer, donc s'autoriser, et puis se respecter d'une certaine manière, parce que les valeurs, parfois, notre entourage ou le contexte dans lequel on vit ne nous permet pas de les honorer ou en tout cas d'en prendre soin. Et là, l'idée, j'imagine, c'est d'aller voir comment on peut protéger cette valeur importante ou en tout cas faire en sorte qu'elle soit plus présente.
C'est ça, c'est ça. Et puis des fois, on peut avoir des valeurs qui se confrontent, mais ça veut dire aussi faire des choix sur, à ce moment-là, j'en mets peut-être une un peu plus en avant, et puis l'autre, je la mets un petit peu en retrait pour l'instant, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas y revenir.
Oui, c'est vrai qu'il y a souvent des tiraillements entre des valeurs. Les inconforts viennent souvent de là. D'un côté, on a envie d'aider quelqu'un parce qu'on a une valeur de solidarité. Et en même temps, je sais pas, on a une valeur de liberté, donc on a envie d'aller voyager à l'autre bout du monde. Et on est là, est-ce que je reste avec ma mère pour l'aider ou est-ce que je vais voyager à l'autre bout du monde pour satisfaire mon besoin.
Et c'est important de se questionner sur, à ce moment-là, à ce moment précis, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Par exemple, aider ma mère. J'aurais certainement l'opportunité de le refaire à d'autres reprises. Voyager, j'aurais certainement l'occasion de le faire à d'autres reprises. Mais là, tout de suite, dans les deux, vers quoi je pencherais le plus? Si on se dit, mais c'est quand même mieux d'aller aider, c'est pas bien de profiter, c'est égoïste justement d'aller voyager, mais alors que l'envie, elle est vraiment tournée autour du voyage, tout de suite, on peut créer des ruminations. Mais là, je me sens fatiguée, et puis et puis finalement, c'est la moulinette, parce que justement, on n'a pas répondu aux besoins qui étaient le plus important à ce moment-là.
En tout cas, c'est un sacré travail de cheminer de la prise de conscience vers la connaissance de soi, l'acceptation. Est-ce que c'est un travail, toi, quand tu le fais avec certains patients qui prend du temps, qui peut se faire vite?
C'est vraiment variable. C'est aussi ça que je dis, moi, à mes patients qui ont, surtout lié à l'hospitalisation, cette idée que à la fin d'une hospitalisation, tout doit être terminé, ce que je comprends sur le principe, mais qui en même temps n'est pas une réalité. Chacun est différent. On chemine tous différemment. Et donc il faut savoir accepter qu'on puisse avancer à notre rythme.
Oui, en fait c'est le travail de toute une vie.
Oui, et puis des fois et puis entre guillemets, c'est pas parce que je suis psy que pour autant c'est rose tous les jours, et que ça veut dire que j'écoute que je mets tous mes biais de côté, que j'écoute mes valeurs tout le temps. Non, de temps en temps ça fonctionne moins bien, je vais plutôt suivre mes biais, je vais peut-être me sentir un peu moins bien à ce moment-là. Mais par contre, quand il y a cette réflexion, ça permet justement de revenir à un moment donné et dire « Ah mince, ça fait... là je me sens pas bien depuis un certain bout de temps. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mis de côté et de se re-questionner dessus. » C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'idée c'est finalement de donner ces outils-là aux patients pour qu'ils puissent le réintégrer dans leur vie de tous les jours et qu'ils aient pas cette sensation de devoir toujours faire appel à quelqu'un pour pouvoir le faire. Mais pour autant, s'ils en ressentent le besoin, on y va.
Et tu me fais une bonne transition en parlant de toi et de la manière dont tu vis les choses. Pour toi, en tant qu'initiée et parfaitement au courant de tous ces sujets qu'on a évoqués, est-ce que toi, au cours de ta vie, il y a eu des moments où justement tes connaissances en psychologie t'ont permis peut-être de mieux affronter certaines périodes difficiles ou de mieux te connaître ou alors de savoir faire appel à quelqu'un d'extérieur si c'était nécessaire? En fait, ma question, c'est est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ou au contraire, finalement, est-ce que ça te permet aussi, toi, de cultiver ton bien-être et une bonne relation à toi, le fait d'avoir ce métier-là?
Dans mon cas, moi, je pense que ça me permet quand même dans mon quotidien, encore plus là, finalement depuis que je suis en psychiatrie, comme quoi ça, quand on inculque les choses aux patients, finalement c'est quand même dommage de les mettre en application soi-même. Donc oui, je fais beaucoup plus attention, je prends du temps pour moi. Par exemple, moi je suis maman, j'ai deux enfants, et quand je sens que je commence à être un peu plus facilement agacée, que finalement je suis quand même moins disposée que d'habitude, je vais voir mon mari, je lui dis écoute, là je sens que c'est plus possible, qu'il faut que je prenne du temps pour moi, et donc moi mon truc à moi c'est d'aller aider avec ma musique et d'aller marcher, et donc je lui laisse ses enfants et puis je vais marcher, et puis finalement quand je reviens je suis beaucoup plus disposée, et puis maman elle peut jouer, et puis elle s'agace pas pour un oui ou pour un non. Donc ça voilà, c'est des petites choses mais qui sont importantes, et comme les biais d'interprétation j'en ai encore plein comme tout le monde, mais j'en ai eu davantage qui m'ont beaucoup pris dans ma vie, et maintenant je communique beaucoup plus sur mes interprétations. Aller dire, en fait, quand t'as réagi comme ça, ça m'a donné ça comme impression, l'impression que tu me rejetais, j'ai l'impression que ceci, etc. Et donc ça permet à l'autre de me dire, il se passait ça dans ma vie à ce moment-là. Et donc finalement, ce qui m'aurait généré, moi, une moulinette de rumination intempestive pendant des jours et des jours, très importante, ben en fait ça s'estompe. Et dans ces moments-là, je me dis, ce que je dis à mes patients, c'est quand même pas bête.
Oui, il n'y a pas juste faites ce que je dis, ouais. mais pas ce que je fais.
Ça a du sens dans la vie de tous les jours.
Ouais. Ah, c'est bien, tu peux mettre en pratique tes propres conseils.
Oui, et c'est aussi pour ça que je donne souvent, en tout cas j'essaye de donner aussi des exemples dans ma vie personnelle, parce que je pense que ça peut être aussi parlant, et puis ça montre aussi qu'on est tous touchés par la même chose.
Oui, c'est pas justement une maladie, ces biais d'interprétation, de négativité.
Ça montre qu'on est des êtres humains.
Oui, voilà, c'est ça. C'est bien de le dire aussi. C'est rassurant. Alors, j'ai quelques autres questions à te poser qui, elles, m'ont été posées par des auditeurs, auditrices du podcast.
Oui.
Alors, il y avait une question concernant les nouvelles habitudes. Quand on a envie de se créer une nouvelle habitude, donc par exemple, une habitude alimentaire, arrêter de manger ceci ou commencer à manger cela, quels pourraient être les liens entre nos pensées, notre cerveau et ces nouvelles habitudes qu'on a envie de mettre en place ?
Alors ça veut déjà dire qu'on va changer, c'est un peu comme si je fais le parallèle, ça va être comme le permis de conduire au démarrage où on va devoir faire beaucoup d'efforts finalement pour apprendre à conduire. Quand on est conducteur, une fois qu'on sait conduire, on sait à quel point finalement c'est facile et qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir. Mais quand on se rappelle un petit peu les heures de conduite, on se rappelle que c'était pas si facile que ça. Ben, une nouvelle habitude, c'est ça. Ça veut dire que ça demande un effort plus important dans la vie de tous les jours. Et donc, éventuellement, il faut peut-être mettre des moyens aussi, des stratégies à côté, en dehors de sa simple volonté, pour pouvoir les mettre en application. Ça peut être des post-it qui nous rappellent la décision qu'on a prise, si c'est par rapport à l'alimentation, de se faire un petit rappel par rapport à ça. Ça peut être de mettre des choses en évidence qui vont nous rappeler ce qu'on souhaite faire. Donc voilà, ça va être important, justement, pour aller dans le sens des habitudes. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une habitude, c'est justement quelque chose qui va... De changer une nouvelle habitude, il va falloir un temps, plus ou moins long. Mais après, ça veut dire qu'on va retomber sur une routine. Donc cet effort, il est sur un court temps, mais pas sur un long terme.
Oui, et puis je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la bienveillance avec soi-même. J'imagine que c'est aussi plus facile d'en créer une nouvelle habitude quand on se dit « Ah bah c'est bien, là t'as réussi aujourd'hui » et qu'on se dit « Oh là là, t'as tout gâché en échouant aujourd'hui. » Donc, moi je vois le parallèle avec la relation à soi qui vient aussi alimenter, en fait, quand on devient débutant d'une nouvelle habitude.
Ça veut dire qu'il y a aussi des loupés aussi, et d'accepter les loupés parce que justement c'est une nouvelle habitude. Tout ça, effectivement, si on arrive à être bienveillant avec soi, on va pouvoir l'expliquer, c'est quelque chose de nouveau, donc aujourd'hui j'ai pas réussi, mais c'est pas pour autant que je réussirai pas demain. Alors que si jamais justement on va être plutôt dans la dévalorisation, en fait la nouvelle habitude elle s'arrête là. J'ai pas réussi, ça sert à rien que je continue, et finalement je reviens sur mon habitude antérieure.
Puis tu parlais de motivation, je pense que là le lien avec les valeurs dont tu parlais tout à l'heure, en fait il est important parce que je me dis si tu changes ton alimentation parce que tu as une valeur, je sais pas, autour de la santé, c'est important pour toi de vivre en bonne santé, te raccrocher à ça et savoir que c'est parce que tu as cette valeur te permet peut-être d'avoir une motivation plus profonde qu'une motivation du type j'ai vu dans les magazines qu'il fallait faire un kilo de moins et en fait il n'y a pas de valeur derrière pour moi qui est importante.
C'est pour ça que c'est important de se questionner sur ses valeurs, sur ce qui est important. De toute façon, il y a cette idée que dans les choix qu'on va faire, si on les fait pour les autres finalement, que ce soit par une décision finalement sociétale, je dois rentrer dans un certain code, ou parce que les amis m'ont dit, si par exemple on reprend des choses comme l'addiction au tabac, m'ont dit d'arrêter de fumer, ou ma famille m'a dit que, si c'est pas une décision propre parce qu'on en voit l'intérêt derrière, c'est quand même plus difficile finalement de se motiver, ou en tout cas ça met à mal l'expérience.
Ok. Et j'ai une autre question d'une auditrice qui demande quel est le lien entre les troubles ou ce qui se passe au niveau de la psychologie sur le physique. Elle prend l'exemple notamment des effets éventuellement du stress sur le physique, du manque de sommeil sur le cerveau. Enfin, quels sont les liens, les interactions qui peuvent exister entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps ?
Alors, il peut y en avoir plusieurs. Alors, spontanément, quand j'ai cette question en tête, notamment, je vais faire un lien avec les émotions. Bien souvent, moi, ce que j'observe chez mes patients, c'est que ceux qui vont éventuellement avoir des manifestations somatiques, des angoisses, des douleurs, souvent, ce sont des patients qui n'expriment pas leurs émotions. Avec souvent cette idée que si jamais je montre que je suis agacée, que je suis énervée, que je suis triste, ça va avoir des conséquences derrière. Donc plutôt pour éviter ces conséquences, j'enfouis tout à l'intérieur, problème, ça fait un peu cocotte minute, et donc le corps, bah, il traduit tout ça. C'est pour ça que psychologique et le corps, bah, c'est lié, hein. C'est très très lié. De la même manière que quand mon corps ne va pas bien, j'ai un problème de santé lambda, et bah finalement ça influe sur mon moral. Les deux sont liés. D'où l'importance finalement de faire attention à ces signes. Bien souvent, quand le corps commence à donner des alertes, c'est qu'il y avait déjà eu des alertes au préalable du cerveau, mais qu'on a préféré les mettre de côté.
Oui, c'est un peu le dernier signal.
C'est ça.
Pour
c'est
que ça. Vraiment on soit sûr de le voir.
Ouais. C'est ce qu'on retrouve par exemple typique dans le burn-out. Finalement, c'est le corps qui lâche, c'est un épuisement. C'est des patients qui vont être complètement fatigués, qui vont plus du tout avoir de capacité d'attention, de mémorisation, enfin vraiment, qui vont être incapables finalement d'entreprendre éventuellement des activités, alors qu'avant ils pouvaient avoir, j'ai envie de dire, une charge très très élevée, et où là c'est le corps qui a dit top, c'est plus possible. Mais parce qu'il y a eu des signaux d'alerte avant, et finalement qui n'ont pas été écoutés. Il y a toujours cette idée de j'ai réussi jusqu'à maintenant, donc je vais pouvoir poursuivre.
Puis du coup, je reboucle avec ce que tu disais au départ. Il y a peut-être des pensées du coup avec lesquelles on a fusionné qui sont j'ai pas le droit de d'être faible, je dois en prendre plus de choses à faire.
Bien sûr.
Et j'ai pas le droit de lâcher ou des choses comme ça.
Dans le burn-out, effectivement, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de pensées justement avec effectivement le milieu, par exemple le travail. Hein, si jamais on reprend le burn-out à travail, si on nous demande une charge de travail beaucoup plus importante. Bien évidemment que on peut avoir un burn-out, mais il y a aussi justement cette pensée autour de ça de je vais essayer de répondre à ce qu'on m'a demandé parce que c'est important pour moi à ce moment-là, parce que je voudrais montrer ceci, parce que j'ai envie d'accéder à ça, parce que ça réveille une blessure en moi, etc., etc.
Bon bah c'est passionnant tous ces mécanismes du cerveau. Je pourrais avoir des questions pendant des heures, mais on arrive à la fin de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu auras envie de partager sur je sais pas, ou un conseil, ou un outil, ou une technique, ou une lecture, peu importe, quelque chose qui pour toi pourrait être utile à connaître pour que nos auditeurs, auditrices puissent développer une meilleure relation avec eux-mêmes, même si tu vas me dire, ça dépend de chaque personne.
C'est beau, on n'a même plus besoin de se parler, que ouais. Tu lis dans mes pensées. C'est ça l'idée. Encore une fois, chacun peut piocher, vous pouvez découvrir plein de choses. Il y a toujours cette notion d'essayer par contre. C'est une notion importante. C'est comme avec les enfants, on leur dit qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas tel légume si on n'a pas essayé. Ben, c'est le même principe un peu pour tout. Il faut essayer pour être sûr que ça ne fonctionne pas. Parce que justement, on va avoir des préjugés, on va avoir des interprétations sur certaines choses qui vont nous empêcher finalement d'aller vers ce qui pourrait nous faire du bien.
Ok, bah, je trouve que c'est un super mot de la fin. Ça donne envie de s'autoriser de nouvelles choses et d'avoir de la curiosité aussi pour différentes pratiques, même qu'on ne connaît pas encore, mais qui peuvent être utiles.
Exactement.
Ok, bah, merci beaucoup Émilie pour ton temps, pour tout ton éclairage sur ces questions et merci infiniment pour notre échange.
Bah, moi, merci à toi. Hein. C'était un plaisir de pouvoir faire ça avec toi.
Je vous retrouve en cette fin d'épisode pour vous remercier de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'imagine que c'est parce qu'il vous a plu et qu'il vous aura intéressé. Alors n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça me fera plaisir de savoir que vous en avez tiré profit. Et ça permettra également à d'autres personnes de le découvrir à leur tour. Et pour terminer, sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les offres de coaching que je propose en ce moment dans les notes du podcast. À bientôt !